écoutez Info Club Sandwich. Salut tout le monde, vous écoutez Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens, sur le 87.7 FM, sur radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. On est le mardi 1er septembre 2026, j'espère que cette première semaine de rentrée se passe bien pour vous. Aujourd'hui, autour du plateau, je suis avec Lina et on commence tout de suite avec l'interview. Donc Lina, je te laisse le micro.
Aujourd'hui, je reçois les deux associations AFTC et GEM. Vous êtes nombreux et nombreuses autour de la table. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, je suis Cindy Brahim. Je suis animatrice coordinatrice du GEM, groupe d'entraide mutuelle Caportus à Amiens, pour personnes cérébro-lésées.
Bonjour, je suis Yvette Timsit. Je suis la présidente de l'AFTC Picardie, association de familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés.
Bonjour, moi je m'appelle Pauline de France et je suis animatrice au GEM Caméléon 80, donc pour les personnes avec TSA, donc troubles du spectre de l'autisme.
Bonjour, alors moi je suis Lucien Dautel et je suis président du GEM Caméléon 80.
D'abord, on commence. Quelle est la signification de mot AFTC ?
Alors, l'association des familles, comme je le disais, l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés de Picardie. Il faut savoir que sur la France entière, il existe, nous ne sommes pas les seuls, il existe environ une quarantaine d'AFTC selon les départements. Nous, bien sûr, avec la Picardie, nous sommes sur l'Aisne, l'Oise et la Somme. Et vous en avez une quarantaine avec une fédération qui s'appelle France Cérébro-Lésions.
Et quelle est la signification de le nom de l'association GEM ?
GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle qui reçoit au sein d'un local associatif des personnes ayant subi soit un traumatisme crânien ou une lésion cérébrale.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'un traumatisme crânien et ses symptômes ?
Alors, un traumatisme crânien est souvent dû à un accident. Alors, sur l'association, nous avons environ une dizaine de personnes ayant subi un traumatisme crânien dû à un accident de la route, bien souvent, mais aussi des personnes ayant subi une lésion cérébrale type AVC ou anévrisme ou maladie associée à la lésion cérébrale.
Quelles peuvent être ses conséquences au quotidien ?
Ben, il faut effectivement savoir, comme l'a dit Cindy, qu'il y a plusieurs origines d'abord du traumatisme crânien. Vous avez aussi bien des maladies, des pathologies médicales, l'AVC, l'anoxie, mais vous avez effectivement des traumatismes qui vont entraîner elles aussi des lésions cérébrales, que ce soit par un accident de voiture, que ce soit par un accident de travail, que ce soit par une agression dans la rue. Et à partir de là, les lésions sont très importantes. Alors, dans la lésion cérébrale, on peut aller du plus léger jusqu'au plus important, jusqu'au plus grave. Il y a un certain nombre d'affaires comme Vincent Imbert, Vincent Lambert, qui ont été médiatisés et qui sont à bout de chaîne, effectivement, concernant la gravité des séquelles. Et ces séquelles, bien sûr, elles vont être importantes dans la vie quotidienne. Parce que si vous me permettez que je dise ce qu'il en est des séquelles motrices, des séquelles cognitives et des séquelles comportementales. Les séquelles motrices, ça veut dire que, et tout ça modulé, puisque vous avez du plus léger au plus grave. Les séquelles motrices, ça veut dire que vous ne pouvez plus bouger un bras, par exemple, vous ne pouvez plus bouger une jambe, vous avez une amputation du champ visuel, vous avez un bégaiement, vous avez des mots que vous ne trouvez pas. Ça, ce sont les séquelles strictement motrices. Vous avez des séquelles cognitives qui sont très importantes aussi, puisque ce sont des séquelles qui touchent à l'attention, la planification, la distraction, la concentration. Par exemple, effectivement, une personne qui est cérébro-lésée ne pourra pas suivre deux conversations à la fois. Elle ne pourra pas faire deux activités différentes. Et en plus de tout ça, vous avez une fatigue. Et ça, la fatigue, c'est pas une fatigue, c'est vraiment les accompagnants sont usés à force, effectivement, de dire « il faut faire ça, il faut faire ça ». Chez eux, il y a l'initiative, le dumping qui n'est pas amorcé, la prise d'initiative qui n'est pas amorcée. Et la troisième sorte de séquelles, ce sont les séquelles comportementales. Et la comportementale, ça peut être l'inhibition, mais ça peut être aussi l'agression, effectivement. l'inhibition, bon, vous restez sur place, vous ne bougez pas, vous avez une apathie, etc. Ou au contraire, l'agressivité. Et il faut désamorcer, dès le départ, la crise qui va venir. Et c'est pour ça que nous, familles, puisque nous sommes des... C'est une association de familles, donc nous sommes des bénévoles. Et chacun d'entre nous, nous avons eu une histoire personnelle. Et c'est à partir de là, fort malheureusement, d'une connaissance, d'une expérience personnelle, que nous essayons de les mettre à profit des personnes et de servir d'intermédiaire entre effectivement les familles qui sont complètement désappointées quand elles reçoivent effectivement chez elles. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a l'accident, il y a tout l'aspect médical, est-ce qu'il y a coma, est-ce qu'il n'y a pas coma, est-ce qu'il y a réveil. Ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois. Et puis après, on se retrouve chez soi, avec toutes ces séquelles, plus ou moins. Que fait effectivement la famille ? Complètement désappointée. C'est votre mari, c'est votre frère, c'est votre sœur, mais c'est plus la même, c'est un autre. Que faire avec ? Et c'est là qu'on nous, on sert d'écoute et on sert d'intermédiaire pour essayer de les orienter vers des lieux où effectivement ils peuvent avancer.
Et c'est pour ça, pour rebondir sur ce que dit Yvette Timsit, c'est que depuis 2019 existent les GEM, groupes d'entraide mutuelle. Donc il en existe trois spécifiques, avec la lésion cérébrale, avec l'autisme et avec le handicap psychique. Et nous, on accueille au sein de l'association donc, ces personnes. Donc sur Amiens, on a les trois spécificités de GEM. Donc, j'ai ma collègue aussi, Pauline de France, qui est présente pour l'autisme, le TSA, accompagnée de Lucien. Et on essaie de travailler en transversalité pour apporter des solutions au quotidien à ces personnes qui se retrouvent bien souvent esselées et vivent seules à la maison, en rupture de liens sociaux. Et nous, on leur apporte un nouvel élan dans leur quotidien en leur proposant des activités, mais aussi de redevenir une personne citoyenne avec des souhaits, des envies, et de partager avec les autres, avec les personnes qui ont subi aussi les mêmes choses, des projets, et de se dire que la vie, elle n'est pas terminée au traumatisme crânien ou au trouble, et leur permettre de développer leurs compétences et de favoriser l'autodétermination et de faire des choix et d'avancer au quotidien.
Quels sont les besoins les plus fréquents des personnes accompagnées ?
On retrouve souvent comme demande parmi les personnes qu'on accompagne de rompre l'isolement. C'est ce que disait Cindy juste avant, c'est des personnes qui sont bien souvent isolées, qui sont seules. Et le but d'arriver dans un groupe d'entraide mutuelle, c'est de pouvoir participer à des activités tous ensemble et des activités qui sont choisies par les adhérents eux-mêmes. C'est le but principal en fait d'un groupe d'entraide mutuelle.
Oui, parce que les GEM, c'est vraiment ce qui intervient après toute la phase médicale et la phase médico-sociale, véritablement. C'est une fois, effectivement, qu'on est sorti du processus médical. Parce que quand on est à l'hôpital, on est protégé, il y a une bulle, effectivement. Même si on s'aperçoit qu'il y a quelque part notre proche qui n'est pas tout à fait le même, qui n'a pas tout à fait les mêmes réactions, même si on s'en aperçoit, bon. Et puis après, on retourne à domicile. Bon, alors, vous avez effectivement des organismes comme la MDPH qui va vous orienter selon la gravité si vous ne pouvez pas faire que le proche revienne à la maison. Parce que le problème, il est là. Une fois qu'on sort de l'hôpital, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? La MDPH peut vous orienter sur un FAM, qui sont des foyers d'accueil médicalisés. Voilà, il faut être un petit peu autonome. Hein. Il ne faut pas véritablement avoir des séquelles très graves. Ou, quand il y a véritablement séquelles très graves, vers des MAS, qui sont des maisons d'accueil spécialisées. Et puis, vous avez les personnes qui reviennent à domicile. Et alors, celles-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment la famille réagit ? Donc c'est pour ça que vous parliez toutes les deux effectivement de rompre l'isolement. Et ça, c'est vraiment les GEM. Ils ne sont pas depuis longtemps pour les GEM-TC. Sur la France entière, on a à peu près 450 GEM, dont 50 GEM-TC. Donc ce n'est pas beaucoup. Et ils ne sont pas très anciens, puisque c'est depuis 2019, donc c'est-à-dire hier, qu'on les a mis en marche. Il y a le GEM-TC Amiens qui fonctionne merveilleusement bien grâce à Cindy. Il y a le GEM TC Saint-Quentin sur l'Aisne qui fonctionne également. Vous avez un GEM TC Beauvais qui fonctionne également. Et ça, c'est tout simplement rompre l'isolement, créer un lien entre les différentes personnes qui ont vu leur vie complètement rompue, parce qu'il y a un avant et un après la lésion cérébrale. C'est plus du tout la même. C'est plus du tout la même pour la personne, Et c'est plus du tout la même pour la famille. Il y avait comme une onde de choc qui se produit pour tout le monde. Et à partir de là, ben, il faut permettre à la personne qui a subi un handicap de revenir à l'état de citoyenneté. Et donc de rompre l'isolement, de se faire des amis. C'est très important. Quand les sorties sont organisées par Cindy, il y a vous avez été à Mers sur les bains, vous avez été plein de sorties, vous avez fait. Et ben, c'était sympa. C'était...
Oui. Et comme disait Pauline aussi, les activités sont aussi organisées, Lucien pourra peut-être en parler, par les gémeurs, ce qu'on appelle les personnes qui viennent au GEM des gémeurs. Et on a aussi le soutien de notre gestionnaire, qui est l'EPSOMS 80 sur Amiens, et qui nous accompagne aussi dans la gestion du quotidien pour mener à bien notre mission. Mais je voudrais dire que ce sont les gémeurs qui organisent la vie du GEM et que c'est vraiment une volonté de l'équipe d'animation de leur laisser la place pour qu'elles puissent être porte-parole soit du traumatisme crânien ou soit de l'autisme. Et à ce titre-là, on participe à différents salons comme l'Agora ce week-end et on présentera nos associations au public et aux futurs adhérents.
Et le GEM Caméléon 80 sera également présent au Salon de l'autisme le 19 septembre à l'espace des OI.
Quelle place occupent les proches dans l'accompagnement de ces personnes?
Ben, les proches, comme je vous ai dit, sont carrément impactés. Hein. Et c'est vrai qu'en plus, dans les séquelles des traumatisés crâniens, il y a un phénomène qu'on appelle l'anosognosie, où véritablement, la personne n'est pas consciente de ses troubles. Et c'est pour ça que, lorsque vous allez à une expertise, quelle qu'elle soit, si l'expert vous pose la question « comment allez-vous ?», le traumatisé crânien ou la personne cérébro-lésée dit « je vais très bien ». Et heureusement que la famille est là. Parce que la famille va pouvoir mettre l'accent sur les séquelles et savoir comment la journée quotidienne du blessé s'organise. Donc elle est fondamentale. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont entourées, je trouve, s'améliorent beaucoup plus que celles qui sont laissées à l'isolement total.
Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles l'équipe est confrontée en ce moment?
Alors, oui, on a quelques difficultés parce que les personnes qui sont traumatisées ont des difficultés dans les déplacements. Donc, pour venir sur le GEM, ce n'est pas toujours facile. Il faut trouver des solutions. On a un financement de l'ARS qui nous permet de fonctionner. Mais comme c'est une association non médicalisée, on ne peut pas prétendre à l'offre médicale. Donc, par exemple, un bon de transport pour venir sur le GEM, ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est une contrainte parce que les personnes, elles restent dans l'isolement et ne peuvent pas venir partager des liens sociaux sur l'association. Donc, ça fait partie des projets que je voudrais mener avec les membres du bureau, essayer de trouver des solutions avec la CPAM, avec l'ARS, avec le conseil départemental pour nous permettre de fonctionner davantage positivement sur l'association.
Après un accident, quelles sont les principales étapes pour retrouver une vie la plus autonome possible?
Ça va dépendre du degré de gravité. Ça va dépendre effectivement si c'est quelque chose de léger. Même léger d'ailleurs. Dans le léger, on peut avoir le handicap invisible. Vous parlez avec quelqu'un et puis au bout de 5 minutes, 7 minutes, vous sentez, vous ne savez pas ce que c'est. Vous imaginez que la personne n'a aucune séquelle motrice. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas en phase avec la réalité. Il y a quelque chose qui vous échappe. Et c'est ce qu'on appelle effectivement les séquelles invisibles. Ça peut être effectivement de l'agressivité, de la frustration à l'intolérance. Ça peut être tout ça. Et voilà. Maintenant, quand c'est effectivement beaucoup plus grave, c'est évidemment une équipe pluridisciplinaire qui vous prend en charge. Ce n'est pas simplement effectivement, ce qu'on appelle les médecins physiques et réadaptation. Vous avez des traumas internes comme Berck, comme Garch, au terme desquels les patients sont pris pendant, je vous dis, des semaines, des mois, et peuvent y retourner une fois qu'ils sont sortis pour essayer effectivement d'améliorer leurs séquelles. Donc, c'est tout un long parcours avant de se dire véritablement stabilisé.
On a aussi le réseau TC-AVC qui est sur Corbie, qui permet aussi aux personnes de faire une évaluation sur le quotidien, sur l'aspect cognitif et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées. Donc, c'est vraiment un partenaire intéressant parce qu'il permet aux personnes de retrouver une autonomie qui était perdue par le biais d'une équipe pluridisciplinaire, donc avec une neuropsychologue, une assistante sociale et une coordinatrice qui intervient au domicile de la personne et ils essaient de faire en sorte de trouver des solutions en orientant vers les bonnes structures.
Comment le public peut-il soutenir vos actions ?
Je veux dire que tant qu'on n'est pas atteint personnellement, c'est difficile. Et je le comprends. Parce que moi-même, j'étais très loin du traumatisme crânien. Et puis, il a suffi que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui m'est proche, qui a fait l'objet donc d'une anoxie à l'époque. Voilà, j'ai vu la personne se dégrader avec la mémoire, tout ce qui concerne. Et c'est comme ça que je suis venue, moi, au traumatisme crânien. Mais je ne sais pas s'il n'y avait pas eu cet événement, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Pour moi, ça a été ça. Il faut une histoire personnelle qui vous interpelle, et si vous voulez aller plus loin. Voilà.
Oui. Après... on peut aussi être bénévole et soutenir notre action au quotidien. Moi, je vous invite à venir visiter le GEM et on vous présentera ce qu'on y fait avec les adhérents. Parce que moi, là, je suis porte-parole en tant que professionnelle, mais les adhérents en parlent mieux parce qu'ils le vivent au quotidien. Mmh. Et c'est vraiment un lieu de bien-être, de rire, de larmes. Mais je dis souvent de larmes de joie parce que... Quand j'ai des collègues qui viennent pour découvrir le GEM, ils repartent avec des étoiles dans les yeux parce que sur le GEM, on oublie un peu la maladie, la pathologie et on y fait de belles rencontres. Et c'est ce qu'il faut retenir.
Oui, moi je voudrais vous féliciter, Cindy, parce que je connais bien le GEM. Donc j'y vais et à chaque fois, c'est vrai que les gens se sentent bien. Il y a une bienveillance, ils ont retrouvé des amis, ils ont un but, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire.
Et on remercie le conseil départemental qui nous a octroyé une subvention pour nous permettre d'effectuer un séjour de répit sur les marchés de Noël. Donc on partira quelques jours sur les marchés de Noël avec les personnes lésées cérébralement et on va partager... ce que tout le monde partage pendant les fêtes. Nous, on va essayer d'organiser des activités et puis de belles visites.
Je vous remercie d'avoir pris le temps à répondre à mes questions.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Merci à vous. Alors, on fait une pause musicale. On écoute Cindy Katase, qui est d'une chanson de... C'est une chanson de Novito, une artiste que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Dika Tazekile, c'est une chanson qui parle du fait d'être stressé. Et d'ailleurs, le titre de la chanson signifie « Je suis stressé ». On écoute ça tout de suite. Deuxième partie de l'émission. La nouveauté de cette année, c'est la revue de presse qu'on vous présentera tous les mardis. Alors aujourd'hui, une info locale et une info internationale. Pour le local, la venue du chanteur Patrick Bruel, poursuivi avec 32 plaintes pour viol et agression sexuelle, les 14 et 15 octobre 2026 prochains au Zénith d'Amiens, a suscité des réactions. Le maire d'Amiens et président d'Amiens Métropole, Frédéric Fauvet, affirme dans un communiqué de presse du 25 août, je cite, qu'il n'est pas le bienvenu. Les médias locaux comme Ici Picardie ou encore Courrier Picard rapportent que le maire souhaite que la loi évolue pour que les collectivités et les salles de spectacle puissent pouvoir intégrer des clauses de prévention des violences sexistes et sexuelles et discriminatoires. Mais également, je cite le maire, de permettre un cadre juridiquement sécurisé, de suspendre ou de rompre un contrat lorsque des éléments concordants font apparaître des faits graves. Les associations locales ont également réagi. Par exemple, l'association féministe Nous Toutes Amiens 80 organise un rassemblement le jour de la venue du chanteur le 14 octobre pour contester le concert. L'association affirme sur ses réseaux sociaux pas de scène pour les agresseurs. Plusieurs organisations seront présentes, comme par exemple le Planning Familial 80, la FAEP ou encore Safe 80. Et pour l'info internationale, le 26 août dernier, donc dans le nord du Népal, un effondrement glaciaire a entraîné une crue dévastatrice, causant plus de 4000 disparus et plus de 900 morts. Selon Vosges Matin, parmi les disparus, on compte plusieurs centaines de touristes, de pèlerins ou d'ouvriers étrangers. Selon Science et Vie, les images satellites révèlent un phénomène plus rare comme déclencheur de cette crue. Selon le média, une partie d'un glacier se serait effondrée et aurait chuté au fond de la vallée. Cette masse se serait accumulée dans la vallée, créée un barrage temporaire jusqu'à céder et causer la catastrophe du 26 août. Ce phénomène, selon les scientifiques, démontre une fragilité plus large. Le socle des glaciers de haute altitude désormais se réchauffe, ce qui les fragilise et lie les roches et sédiments entre eux. Voilà, c'est la fin de votre émission préférée, donc l'Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec Indigo Night de Tamino. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens.
maybe the air, there was no more despair. Just something about that night. Maybe the girls, they lit some light. We made everything right. Cause he's never been more alive.